Chapitre 44. Avait-il trouvé le grand amour? 63 sacs plastiques scellés parvinrent avant minuit au service régional d'identité judiciaire de Rouen. Des verres, des bouteilles, des couteaux, des fourchettes, des brosses à dents, des peignes, des vêtements, des chaussures, des lunettes, des gants, des mouchoirs, des stylos, des clés, des capodastres de guitare, des écouteurs de MP3. Les flics de la brigade d'Elbeuf avaient obéi aux ordres stricts du commandant Weissmann. Ils avaient minutieusement recueilli chez Frédéric Saint-Michel tous les objets qui pouvaient leur paraître, de près ou de loin, susceptibles de recéler une empreinte génétique. Parmi ce bric-à-brac, une première analyse tomba au petit matin. Un banal flacon de verre trouvé entre un gel douche et un shampoing contenait de très anciens résidus de sperme. Quelques heures plus tard, un ordinateur cracha un code génétique. Les flics vérifièrent pendant de longues minutes chaque lettre, chaque chiffre, tels des joueurs de loto qui n'osent pas croire qu'ils tiennent entre leurs mains le bulletin gagnant. 10 ans qu'ils attendaient que sorte la bonne combinaison. Puis ils explosèrent de joie. Le sperme contenu dans le flacon était le même que celui retrouvé sur les corps de Morgane Avril et Myrtille Camus. Weissmann rédigea dans la foulée pour le juge Lagarde un rapport définitif. Frédéric Saint-Michel s'était procuré le sperme d'un inconnu pour détourner les soupçons. Cette certitude bouclait l'affaire tout en la rendant plus sordide encore. De simples amants paniqués face à la volte-face de ses deux maîtresses, le beau Chichin devenait un tueur sadique, ayant prémédité avec minutie ces deux meurtres. Un médecin légiste, le docteur Courade, eut beau affirmer qu'il lui semblait techniquement impossible que le sperme retrouvé dans le vagin de Morgane Avril ait pu y être introduit de façon artificielle, personne ne s'attarda sur ce détail. Frédéric Saint-Michel, même avec 3 balles dans le ventre, entrait au panthéon des assassins machiavéliques. Le paramé pénétra dans le port de Grand-Camézy. Il dépassa une dizaine de chalutiers colorés qui flottaient paresseusement devant le quai. Les gendarmes alignés au milieu des bacs de polystyrène semblaient avoir été pris dans les filets des bateaux de pêche et entassés là pour y attendre la criée. Denise lança une amarre au flic le plus proche. Le paramé écrasa les bouées jaunes pour se coller au quai de briques. « Ils veulent te parler », glissa Carmen à l'oreille d'Océane. « Ils veulent parler à chacun d'entre nous, mais toi d'abord. » Voix inquiète, téléphone serré dans le poing. Le regard mouillé d'Océane délaissa celui de sa mère et m'inonda à nouveau. Une vague de pluie, chaude celle-ci. Bien entendu, elle devrait s'expliquer devant les flics. Elle avait abattu un homme. 3 balles dans le corps, moins de 30 minutes auparavant. Pour se venger. Pour me sauver. Sa main glissa lentement sur mon bras. « Excusez-moi, Jamal, » fit-elle. « Excusez-nous, c'était... » « Ils t'attendent, » insista Carmen. Océane se leva. J'ai cru apercevoir un regret dans ses yeux. « On s'appelle ?» murmura-t-elle. « On s'appelle. » Alors que Carmen et Océane disparaissaient à l'arrière du Renault Trafic bleu garé face au paramé, d'autres gendarmes investissaient le pont du Cotter. Une dizaine. Certains avaient enfilé des gants de latex et des charlottes en plastique transparent. J'étais toujours assis sur le banc-coffre cadenassé et personne ne semblait s'intéresser à moi. Droit dans mon champ de vision, toujours appuyé au bastingage, Mona glissa un mot au flic qui s'avançait vers elle. Trop loin, impossible d'entendre. Le type hocha la tête et s'éloigna. La seconde suivante, Mona se plantait devant moi. « Bonjour, Jamal. Depuis que je suis morte près de la gare des Ifs, nous n'avons pas beaucoup eu l'occasion de reparler. » Son rire sonna faux, creux plutôt. Aucun écho à attendre de ma part. Elle pinça les lèvres. Le vent jouait à faire entrer ses cheveux roux dans la capuche de Kawai. « Je suis désolé, Jamal. Tu n'étais pour rien dans cette histoire. Nous nous sommes plantés. Tous. » Une eau froide coulait toujours sous ma combinaison. J'avais envie d'en finir, de bâcler une déposition au flic, de la signer, de me tirer de là. « Tu t'en foutras, » continua Mona, « si je te dis que je n'étais pas d'accord avec eux, mais que je n'avais pas le choix. » J'ai tourné la tête. Carmen était ressortie du Renault Trafic accompagnée d'une gendarmette, pas Océane. Mais tu vois, au final, Carmen Avril avait raison. Puis Rose aussi. Pour faire remonter la vérité à la surface, il fallait remuer le passé. Remuer le passé. Faire remonter la vérité à la surface. Deux cadavres pourrissaient dans la cale du Paramé et sans doute pas ceux prévus au début du programme. Un flic s'avança vers nous, képi vissé jusqu'aux sourcils. Avant qu'il ait pu nous adresser la parole, Denise l'intercepta en lui collant Arnold dans les bras. Visiblement, Mona avait négocié une trêve, le temps de me parler. Qu'espérait-elle? Une mèche affolée agaça ses lèvres. Elle la repoussa d'une grimace. Elle n'avait plus rien de commun avec une petite musaraigne apeurée. Très vite, Jamal, j'ai su que tu étais innocent. Très vite? Précise, ma jolie. Dès que nous avons couché ensemble? Avant, après, pendant? J'ai aperçu un quatrième flic descendre dans la cale du Cotter. Je devais aller au bout de mon rôle, plaida Mona. En mémoire de Myrtille, de Louise, de Charles. C'était, comment dire, irréel. Tu te souviens hier soir dans la Fiat à Vaucotte, lorsque tu as lu l'enveloppe marron? Le destin d'une petite gamine du Puchot et sa copine d'enfance, Mimi et Lina. La vie triste à mourir d'une fille qui pleurait à côté de toi pendant que tu lisais cette lettre d'une inconnue. Hier soir, il y avait à peine 10 heures. J'avais l'impression qu'une année entière s'était écoulée depuis. Vaucotte, la Fiat, une enveloppe marron. Émouvant, m'avait-elle demandé. Merci, avait-elle ajouté. Je n'avais rien compris. J'ai craché une poignée de mots empoisonnés. Je me souviens. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Non, Jamal. Si, chapeau bas. Tu es une sacrée comédienne. Elle entortilla une mèche rousse entre ses doigts, sautilla sur la pointe des pieds telle une collégienne timide, puis prit une longue respiration. Non, Jamal. J'étais sincère. Contrairement à toutes les apparences, j'étais sincère. Absolument sincère. Tu ne vas pas me croire, Jamal, je ne me fais aucune illusion. Mais il faut que je te le dise, maintenant. À l'exception de ce qui concernait le double meurtre, jamais... Elle termina sa déclaration en apnée. Jamais je n'ai été aussi sincère dans une relation avec un garçon. Son sourire maladroit s'écrasa contre mon visage. Sincère? À l'exception de ce qui concernait le double meurtre? À l'exception des enveloppes marron semées dans mon dos aussi? À l'exception de la virée nocturne chez le MEDEF? À l'exception de la visite de la chambre des gamins traumatisés dans le gîte de l'ancienne gare des IF? À l'exception de la vie inventée de Magali Véron? À l'exception de la vie rêvée d'une certaine Mona Salinas, titulaire d'un doctorat sur la silice des galets, étudiante chérie d'un directeur de thèse à la tête du plus grand laboratoire de chimie expérimentale de France qui lui prête sa villa? Pourquoi se priver, hein, Mona? Quitte à avoir le choix, autant endosser le rôle d'une fille drôle, intelligente et surdiplômée, histoire de se donner toutes les chances de séduire le pigeon assis face à elle à la table de la sirène. Rien n'était vrai, et je murmurais. Rien. Ni vrai ni faux, Jamal. Nous inventions, nous nous racontions des histoires. Un cri sourd explosa au-dessus de ma tête. Faites pas chier! Dans la cabine de pilotage du Paramé, Gilbert Avril engueulait un flic qui essayait de le décrocher de la barre. Les mouettes, affolées, volaient d'un mât à l'autre. Mon regard passa au-dessus des épaules de Mona. Non, moi j'y ai cru. Un silence. J'ai vu ressortir Océane du Renault Trafic, encadrée par deux gendarmes, puis disparaître à nouveau à l'arrière d'une C4. La berline tourna quelques secondes plus tard au bout du quai. Une boule m'écrasait le ventre. J'ai détourné les yeux. J'y ai cru, Mona, ai-je répété. Tu vois, je continue de t'appeler Mona. Débile, non? Mona Salinas n'existe pas, n'a jamais existé. Tu es une inconnue. Ses cheveux volaient toujours autour d'elle, aussi agaçant qu'un essaim de moustique. Si c'est ce que tu crois, fit-elle après un long moment. Alina n'est pourtant pas si différente de Mona. C'est la même fille, Jamal. Seul change l'ordre des lettres. Nous jouions tous notre propre rôle, au fond. Elle s'avança et m'embrassa sur la joue. Elle tremblait. Elle força un sourire. Je ne peux pas t'en vouloir, ce serait le comble, non? Sans rancune, alors? Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas ajouté un seul mot. Le ton joyeux de Mona me semblait terriblement artificiel. Tu te souviens de notre première rencontre, Jamal? Notre dîner en tête-à-tête à la sirène? Je t'avais demandé si tu m'aurais donné une de ces cartes de visite, celle que tu distribuais aux plus belles filles dans la rue. Je t'avais répondu oui. C'est vrai. Mais tu te rappelles ce que j'avais ajouté? Aucune idée. J'ai encore scruté le quai vide jusqu'à l'angle où la C4 d'Océane avait disparu derrière le pavillon crème. Je te vouvoyais alors, Jamal. Je t'avais dit quelque chose comme « Je suis certaine que vous ne m'auriez pas donné votre carte. Vous aimez les femmes romantiques, les beautés fatales, les évanescentes, pas les filles directes comme moi. » Mona passa un doigt froid sur ma joue. « Vous attirez des images, vous les collectionnez comme des figures Panini. Vous n'attrapez pas celles qu'il vous faut. » Un flash dans le jour pâle me fit cligner les paupières. Un flic prenait des photos du bastingage du Paramé, sans doute pour trouver de quel coin du pont Saint-Michel avait balancé Pyrrhos par-dessus bord. Aucun d'eux ne semblait pressé de nous interroger. Les mots de Mona continuaient de glisser dans ma tête. « Vous aimez les femmes romantiques, les beautés fatales, les évanescentes. Vous n'attrapez pas celles qu'il vous faut. » Je me souvenais maintenant, elle m'avait dit ça dès le premier soir. Une prémonition à laquelle je n'avais pas prêté la moindre attention. « Sans rancune, » ai-je confirmé à voix haute. « Tu avais raison, Mona. Je suis attiré par les étoiles. » Ma main traversa l'espace vide sous mon genou gauche. « Celle que je dois conquérir. Les sommets inaccessibles. Gravir le Mont Blanc, ce genre de conneries. Je m'entraîne dur pour cela. » « Je sais. Je l'ai toujours su, au fond. » « Ciao, Jamal. Les flics nous attendent. Je crois qu'on peut tous les deux enterrer cette brave Mona, alors. » Alina m'enfonçait ce prénom dans la tête. Elle se tortilla pour parvenir à sortir un objet de la poche de son jean. « En parlant de tes futurs sommets, j'ai récupéré ça hier. Je l'avais posé sur le capot de la Fiat près de l'ancienne gare des Ifs. Elle a glissé quand tu as démarré pour échapper à Pyrrhos. Peut-être même as-tu roulé dessus. » Mona glissa dans ma main l'étoile jaune de shérif, noire de boue, cabossée. « Tu me l'avais confié. Tu devras trouver une autre gardienne. » J'ai levé les yeux au ciel. Au-dessus du croissant de lune qui s'effilochait en longs nuages blancs, une dernière constellation scintillait. « Merci, Mona, mais je n'en ai plus besoin. » J'ai scruté à nouveau les étoiles du matin qui jouaient les coquettes, dissimulées derrière un mince voile de brume. Puis j'ai saisi l'insigne du shérif entre le pouce et l'index. D'un geste déterminé, je l'ai lancé le plus loin possible dans l'eau. Le morceau de métal doré vola un long moment, épousant une courbe élégante jusqu'à se poser en ricochet à la surface noire du port. « Tu n'aurais pas dû, » protesta Mona. « C'était ton talisman. » L'étoile de shérif coulait doucement. « Ton porte-bonheur, » ajouta-t-elle. Elle s'éloigna. Elle n'avait pas descendu trois barreaux de l'échelle du Paramé pour atteindre le quai qu'un flic en blouson de cuir sortait déjà les mains de ses poches pour l'aider. Sur le pont, porté par quatre autres gendarmes, les cadavres de Pyrrhos et de Saint-Michel passèrent, enveloppés dans des sacs plastiques opaques. Un flic tourna la tête vers moi, indifférent. Peut-être même espérait-il que je les aide à déplacer les Maccabées. J'ai fermé les yeux, laissant le roulis du bateau me bercer. Cinq verbes dansaient dans ma tête. Cinq commandements. Devenir le premier sportif handicapé à participer à l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Faire l'amour à une femme plus belle que moi. Avoir un enfant. Être pleuré par une femme quand je serai mort. Payer ma dette avant de mourir. Je n'avais pas bluffé devant Mona, pas cette fois. Je n'avais plus besoin d'étoiles pour me guider. Je touchais du doigt mes cinq caps. Le premier n'était qu'une question d'entraînement. Le second n'était plus un Everest inaccessible. Océane. Jamais je n'avais eu autant envie que la même femme exauce trois de mes vœux. Quant au cinquième, j'avais tant frôlé la mort ces derniers jours que, fatigué, Elle me laisserait un long répit. Difficile d'estimer combien de temps je suis resté sur le coffre, perdu dans mes pensées, avant qu'un flic s'approche pour m'interroger. Il était jeune et souriant. On aurait presque dit un stagiaire. Il me tendit une couverture en me demandant si je voulais me changer. J'ai hoché la tête. « Suivez-moi !» Je me suis levé et j'ai sauté à cloche-pied sur mon unique jambe. Le stagiaire se retourna gêné. Il semblait chercher quelque part sur le cotère la moitié de jambe qui me manquait. Tout juste s'il ne vérifia pas par-dessus bord si un crocodile, gueule ouverte, n'attendait pas pour me dévorer l'autre. Puis très vite, j'ai senti que sa gêne se muait en malaise. Son regard remonta jusqu'à mon visage. Suspicieux. Peut-être avait-il lui aussi du mal à croire que le petit arabe unijambiste était complètement innocent dans cette affaire. Pas de fumée sans feu. Après tout, l'association Fil Rouge avait réuni les preuves. J'étais le double inconnu, le seul type présent au mauvais moment sur les lieux des crimes de Morgane Avril et Myrtille Camus. J'étais le dernier à avoir parlé avec Pyrrhose avant son assassinat. Après tout, il demeurait beaucoup de zones d'ombre dans le dossier de Saint-Michel. Après tout, je restais le bouc émissaire idéal. Après tout, peut-être avais-je menti depuis le début. J'ai tendu la main pour que le jeune flic me prête son épaule. Où ces connards de l'association Fil Rouge avaient-ils pu bien foutre ma prothèse? Je me doutais bien que dans les heures qui allaient suivre, j'allais devoir raconter et raconter encore l'invraisemblable enchaînement des événements de ces 6 derniers jours. L'écrire aussi, pour ne rien oublier. Le pire comme le meilleur. Le pire derrière moi. Le meilleur à venir. Souvenez-vous, c'était la première scène de ce récit. Je dînais chez la plus jolie fille du monde. Elle venait d'enfiler une robe tulipe bleue. Ses seins dansaient, nus et libres, sous la soie d'un décolleté dans lequel j'avais le droit de plonger les yeux aussi longtemps que je le désirais. À présent, je peux vous révéler son prénom. Océane. J'étais sur le point de lui faire l'amour. C'étaient les premières lignes de ce récit. Ce seront les dernières. Amateur de thriller, désolé de vous décevoir, ce sera un happy end.